Chapitre 5. Apprivoisement. Quand Paul émerge de son sommeil, il entend d'abord le bruit des vagues par la porte-fenêtre entr'ouverte, puis d'autres de vaisselle provenant de la cuisine. Il enfile un pantalon, garde son t-shirt de nuit et s'y rend silencieusement. Ludovic est assis à table, un bavoir autour du cou, en train de croquer dans une biscotte. Julie se retourne et, sur son visage chiffonné, apparaît un doux sourire. « Tu as bien dormi ?» lui demande Paul. « Oui, très bien. C'est bizarre la présence de la mère. Pas besoin de compter les moutons, ça berce instantanément. Tu as trouvé de quoi faire un petit déjeuner ?»« Non, il n'y a pas grand-chose. J'ai trouvé des biscottes pour Lulu, il avait faim, mais c'est à peu près tout ce qu'il y avait dans le placard. »« Allons à la boulangerie, ils ont tout ce qu'il faut. Habille Ludovic, il ne fait pas très chaud. On y va comment ?»« À pied, c'est à 50 mètres. » Quand ils entrent dans le commerce, la boulangère se transforme en un joli sourire avant de faire le tour du comptoir pour venir prendre Paul dans les bras et l'embrasser chaleureusement. « Bonjour Paul, tu es là ?»«
Bonjour Annette, je te présente Julie. »
La boulangère prend alors la jeune fille dans ses bras pour l'embrasser avec cette même sincérité. « Tu nous l'avais cachée, cette jolie jeune femme ?»« Ne lui dis surtout pas qu'elle pourrait être ma fille, elle ne veut pas que je me fasse passer pour son père. »« Vous avez tort, mademoiselle. » Paul est un homme charmant et un père parfait. Julie lui sourit poliment en regardant Paul, gêné. Il serait même un grand-père heureux, ajoute-t-elle en se penchant vers Ludovic, qui se cache derrière sa mère en regardant la femme du coin de l'œil. Elle retourne alors derrière son comptoir, saisit une brioche sur le présentoir et en coupe un morceau qu'elle tend à l'enfant.
Tiens, mon lapin, on va profiter de ton séjour en Bretagne pour te remplumer.
Vous restez longtemps ?
Deux ou trois semaines. Jérôme est là aussi, il dort encore.
Ah, notre pauvre Jérôme. Dis-lui de passer nous voir. Quand on a reçu ton faire-part, ça nous a fait tellement de peine. Annette est à l'opposé du cliché de la boulangère, aussi arrondie qu'une pâte à pain qui lève sur le coin de la cheminée. D'un âge mûr, elle est petite et mince sous son tablier simple. Ce n'est pas avec ses Queen Amman que son mari a dû l'emballer. Ou alors, elle fait partie de ces femmes au métabolisme digne d'un réacteur atomique et qui peuvent manger de façon indécente sans prendre un gramme quand d'autres fabriquent des capitons rien qu'en jetant un coup d'œil sur la vitrine d'un chocolatier. Elle est d'un caractère jovial et retrouve rapidement sa bonne humeur après avoir évoqué le drame. Son rire aigu et généreux résonne dans la boulangerie, ponctuant presque chacune de ses phrases.
« Marlène n'est pas là ?»«
Marlène n'est plus dans ma vie. » répond la femme en souriant.
« Enfin !»«
No comment, Annette, je sais que tu avais raison. Ce n'était pas une femme pour moi. »«
Ce n'est pas mon genre de m'enorgueillir d'avoir raison, tu me connais. »«
Justement. » Sur le chemin du retour, Ludovic, son gros morceau de brioche dans la main, marche devant Paul et Julie. Il s'arrête régulièrement, se baisse pour ramasser un caillou et le met dans sa poche. Le village est désert. Ils n'ont pas encore croisé une seule voiture.
« C'est calme ici, » constate la jeune femme.
« Hors saison. À la mi-octobre, il n'y a plus que les habitants du village qui sont là à l'année et quelques fous qui viennent encore pour entendre le bruit des vagues. Les barques sont retournées, les volets en bord de mer sont fermés, mais l'ambiance est encore plus chaleureuse.
Tout le monde vous connaît ici.
Ça fait plus de 30 ans que je viens tous les étés.
Vous ne vous en lassez pas ?
Jamais. J'adore ce coin. » Être sur la plage et avoir ce sentiment qu'on est au bord de l'infini. Et puis, les gens sont adorables.
Ça, c'est clair. C'est pas ma boulangère qui aurait coupé dans une brioche pour donner à Lulu un aussi gros morceau. Il va prendre 3 kilos en une semaine si ça continue.
Ça ne lui fera pas de mal. Il ressemble à un moignon tombé du nid. Et tu devrais bien essayer de faire pareil. Tu feras moins mes anges.
Je commence déjà à être serrée dans mon jean.
Ça, c'est le restaurant d'avant-hier.
C'est bien. Tu fais quand même un peu pitié.
Je croyais que vous n'aviez pas pitié de moi. Je préfère faire pitié, mais rentrer dans mes pantalons.
On achètera la taille au-dessus.
Je n'ai pas d'argent.
Arrête de parler tout le temps d'argent.
En même temps, c'est le nerf de la guerre. Sans argent, on n'a plus rien aujourd'hui.
L'essentiel ne s'achète pas.
Alors ça, c'est bien une parole de riche. L'essentiel, c'est quoi ? L'amour, les bons sentiments, le bonheur ?
S'énerve Julie.
Je vous vois venir. Ce sont les gens qui n'en manquent pas qui disent que l'argent n'est pas important. N'empêche que l'argent, ça aide un peu quand même. Ça permet d'avoir une ligne téléphonique pour appeler ses copines quand on a le cafard. Ça permet de manger des bonnes choses de temps en temps et d'arrêter de se baisser dans les rayons pour ne prendre que les sous-marques rangées tout en bas, au ras du sol, là où les cafards rôdent la nuit. Ça permet d'être un peu à la mode quand on en a envie, autrement qu'avec 2 ans de décalage, parce que les gentilles dames qui débordent de fric ont eu la gentillesse de donner les fringues dont elles se sont lassées à la friperie du coin. Ça permet de mettre un peu de côté pour se dire que ce ne sera pas si grave quand la courroie de distribution lâchera. Ça permet de...
Arrête, c'est bon, je suis désolée. Mais je te rappelle que je t'ai dit que le séjour était tout frais payé.
All inclusive, y compris les pantalons, au cas où tes cuisses profitent.
Et moi, je vous rappelle que ça me gêne.
Ah oui, c'est vrai, tu es féministe.
Non, je n'ai pas l'habitude qu'on m'achète.
Je ne t'achète pas. Sors-toi cette idée de la tête. J'achète des choses pour ton fils et toi. Rien à voir.
Je n'ai toujours pas compris pourquoi vous m'avez proposé de venir.
Tu n'es pas obligée de comprendre.
Je ne suis même pas sûre qu'il y ait quelque chose à comprendre.
T'étais là, sur mon chemin, comme un silex. Et moi, je suis l'homme de Cro-Magnon qui en cherchait désespérément un pour allumer son feu au bord du chemin.
Je ne comprends rien à ce que vous dites.
Tu me réchauffes le cœur.
Je ne vois pas bien comment.
Moi non plus. Je constate, c'est tout. On est obligé de tout comprendre ?
Vous êtes amoureux ou quoi ?
Rassure-toi, je ne suis pas le genre à vouloir t'emmener dans une chambre d'hôtel pour penser avec fierté que je peux encore culbuter des jeunettes.
Tu as cette chose au fond de toi qui rayonne, c'est tout.
Et j'avais envie d'un peu de lumière dans la grisaille de mon quotidien.
Julie se demande alors où il peut bien voir ce rayon de lumière. Elle qui a l'impression que sa vie, hormis son fils, n'est que grisaille.
Mais vous la voyez où, cette lumière ?
Dans tes yeux.
Ah, ne me la faites pas à moi. C'est la plus grosse ficelle de séducteur que je connaisse de dire à une fille qu'elle a de jolis yeux.
Je n'ai pas dit qu'ils étaient jolis. J'ai dit qu'ils étaient lumineux. Ce qui ne les empêche pas d'être jolis.
Ah, vous voyez ?
Pauline était un peu comme toi.
Pauline,
ma première femme, la mère de Jérôme.
Était ?
Elle est morte quand il avait 3 ans.
Je croyais qu'elle vous avait planté.
Je sais.
Elle est morte de quoi ?
Un cancer de la vulve. Le truc qui n'arrive jamais aussi jeune. Et qui l'a emporté en 3 mois. Ils n'ont rien pu faire, à part la mutiler, pour rien. Elle était mon petit rayon de soleil. Quand elle s'est éteinte, je n'ai jamais réussi à avoir chaud à nouveau. Et depuis une semaine, voilà que je recommence à avoir des sensations dans la moelle épinière, et peut-être bien dans le thorax, dans le ventre aussi, au bout des doigts. Des petites étincelles qui s'allument par-ci par-là et qui me font croire qu'il est encore possible d'avoir chaud à l'intérieur.
Et votre deuxième femme ?
Une lumière froide. Avec Marlène, j'ai vécu 30 ans devant un frigo, porte ouverte.
Ça a le mérite d'être clair.
Sombre, au contraire. J'ai l'impression d'avoir loupé 30 ans de ma vie et de me réveiller d'un mauvais rêve.
On ne vous a pas marié de force non plus.
Non, mais j'étais paumée avec un gosse de 3 ans. On s'est croisés chez des amis communs, je me suis dit qu'on pourrait faire un bout de chemin ensemble et qu'elle ferait du bien à Jérôme.
Et elle lui a fait du bien ?
Je n'en sais rien. Je ne pense pas qu'elle lui ait fait du mal.
C'est déjà ça.
De retour à la maison, il déballe les quelques courses sur la table. Ludovic termine doucement sa brioche et réclame un bol de lait. Paul fait couler un café et Julie sort des tasses et des cuillères. L'enfant appelle alors sa maman pour lui demander Balou.
« Il te demande quoi ?»
s'étonne Paul.
« Balou, il aime bien le matin pour nous mettre de bonne humeur. »
« C'est quoi, Balou ?» demande Paul, encore plus intrigué.
« On lui montre ce que c'est, Lulu ?»
demande Julie à son fils, qui dodeline de la tête pour acquiescer.
« J'ai peur !» dit Paul en souriant.
« Mais non, pourquoi ?
Tournez-vous, vous faites l'arbre. Demain, vous ferez Balou. »«
C'est qui, Balou ?»«
Le livre de la jungle, Balou !
Enfin, Paul, révisez vos classiques.
Tournez-vous »
dit-elle d'un ton péremptoire. Paul s'exécute et se tourne en direction de l'évier. Il sent alors Julie se coller à lui, dos à dos, et commencer à chanter « Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux », en se trémoussant contre son corps, ce qui génère chez lui un certain étonnement, mais lui procure une indéniable détente. « Chassez de votre esprit tous vos soucis, prenez la vie du bon côté », continue-t-elle en se frottant vigoureusement à lui. Jérôme arrive à ce moment-là et les regarde un instant avec une moue dépitée. Julie l'aperçoit, mais continue de chanter. Paul rit, puis remarque en se retournant que Jérôme est dans la pièce. « Ah, tu es là !» constate-t-il en essayant de retrouver une certaine contenance. « Oui, je suis là. Ça y est, vous avez fini votre cirque ?»« Tu devrais essayer, ça fait du bien. » « Mais oui, c'est ça, » ajoute-t-il, cynique. « Tu as bien dormi ?»« Ça va, » répond le jeune homme à voix basse, sans regarder personne. La suite du petit déjeuner est animée par les demandes incessantes de l'enfant pour aller à la mer. Julie se dépêche de finir son café pour répondre à cette requête, d'autant qu'elle-même ne pense qu'à ça depuis qu'elle a ouvert les yeux. Quelques instants plus tard, elle quitte la maison, Ludovic sur son dos, en direction de la plage. Paul termine son café, un sourire sur les lèvres, en les regardant courir dans le sable. « Elle t'a fait quoi, cette fille, pour que tu la regardes avec cette béatitude dans les yeux ?» demande Jérôme à son père. « J'ai l'air béat. Tu veux un miroir ?»« Et alors ?» répond Paul. « Alors rien, ça m'inquiète. »« Tu t'inquiètes de voir ton père heureux ?»«
Je m'inquiète de voir ce qui le rend heureux. »
« Moi, je m'inquiète de voir mon fils malheureux.
J'ai de bonnes raisons pour cela. »«
Moi aussi j'ai de bonnes raisons. Et crois-moi, il vaut mieux avoir de bonnes raisons d'être heureux que de bonnes raisons d'être malheureux. »«
Si tu le dis. » »«
Tu as prévu quoi aujourd'hui ?»«
Je les emmène faire des courses à Quiberon, il faut remplir les placards. Et toi ?»«
Je vais aller marcher sur la plage, lire un peu, peut-être. J'ai des revues médicales en retard. » »«
Laisse donc tomber tout ça. Fais une vraie pause dans ta vie. »
Demande à Julie son bouquin de Fred Vargas, elle dit qu'il est très bon.
Julie s'est arrêtée tout au bord de l'eau. Elle a enlevé ses chaussures et ses chaussettes. Ludovic a voulu en faire autant. L'eau est glaciale, tant pis s'ils sont malades. Mais l'air est doux et l'envie de marcher dans l'eau irrépressible. Ils se sécheront juste après, quitte à devoir enfiler 3 paires de chaussettes et filer sous la couette. L'heure est à marcher dans le sable mouillé et jouer avec les vagues qui remontent vers eux.
Ludovic ramasse des coquillages. Julie dessine dans le sable des cœurs, des lulus de toutes les tailles que les vagues effacent instantanément. La rencontre incessante de la mer avec la terre la fascine. Demain matin, elle viendra courir. Elle a bien fait d'emmener ses baskets. Le sol est parfait. Au lever du soleil, la sensation doit être jouissive.
Julie en oublierait presque les projets de Paul d'aller faire le plein de victuailles pour le séjour. Elle propose à Lulu de rentrer maintenant, en lui promettant de lui acheter une pelle et un seau, et peut-être même un camion benne pour jouer dans le sable, si toutefois les supermarchés disposent encore de ce genre d'articles au mois d'octobre. Le 4x4 démarre, en laissant Jérôme assis à la cuisine, les yeux dans le vague, les oreilles dans les vagues. Irène est là, tout près. Elle apparaît, à longueur de journée, pour disparaître quand il essaye de s'en approcher. Irène était triste, mais elle était douce. Irène était malheureuse, mais elle était tendre. Il aimait la prendre dans ses bras et sentir comme elle se levait tout contre lui. Il savait la réconforter et espérait à chaque fois qu'elle avait franchi le début de la pente pour la remonter peu à peu. Mais non. Elle glissait inlassablement, comme si cette pente était couverte de verglas. Il avait beau la recouvrir de sel. Il est déjà 11h30.
Jérôme s'apprête à ranger la table quand son téléphone sonne. Il sourit vaguement en voyant le nom de son interlocuteur s'afficher sur l'écran. « Bonjour Caroline, votre embolie pulmonaire est arrivée plus tôt que prévu ?»«
Vous n'êtes toujours pas drôle. Arrêtez de me parler d'embolie pulmonaire, vous allez me porter la poisse. »«
Je suis un bon aimant à poisse. Il ne doit plus en rester beaucoup pour les autres. »« Détrompez-vous, la poisse, c'est comme la bêtise humaine, elle est inépuisable. »
Vous êtes d'un naturel sacrément positif.
Vous vous êtes regardé, rétorque Caroline.
Vous ne m'appeliez pas uniquement pour me dire des gentillesses de ce genre, si?
Non, je vous appelle pour Madame Paquin. Je ne sais pas quoi faire avec elle. Elle dit qu'elle a mal au ventre. Je n'ai rien palpé d'anormal. Je lui ai prescrit une prise de sang et un ASP sans grande conviction.
Votre instinct voit juste pour la conviction. Il n'y avait aucun intérêt à prescrire une radio et un bilan sanguin. Vous ne trouverez rien.
Pourquoi ne m'avez-vous pas parlé d'elle ?
Pour ne pas lui voler son plaisir de tester la remplaçante.
C'est une blague ?
Non, une pauvre femme. Et je fais quoi avec elle? Elle m'a dit qu'elle revenait ce soir avec les résultats.
Écoutez-la. C'est tout?
C'est déjà beaucoup. C'est son histoire qui lui donne mal au ventre. Alors d'en cracher une partie est un bon antalgique. C'est pour ça qu'elle aime bien venir voir les remplaçants. Moi, je sais déjà tout. Ça n'a pas le même effet sur elle qu'une oreille toute vierge à l'écoute de son vécu. Par contre, ne vous laissez pas atteindre. L'empathie, c'est tendre la main à celui qui est dans le trou. Ce n'est pas sauter dedans pour l'aider à remonter.
Pourquoi vous me dites ça?
Parce que vous avez le profil de celui qui saute dans le trou.
Je ne m'approcherai pas du bord.
Ben si, quand même un peu, sinon ça ne sert à rien de l'écouter. Mais tenez-vous bien au bord pour ne pas tomber.
Vous commencez à m'inquiéter.
Vous verrez bien. Laissez venir.
Ok, je ne vous dérange pas plus longtemps. Ça va là-bas? Il fait beau?
Dedans ou dehors?
Les deux.
Soleil dehors, il pleut dedans.
Alors sortez prendre l'air,
dit-elle comme une évidence en raccrochant bruyamment.
Le trio improbable est de retour en début d'après-midi. Ludovic s'est endormi dans la voiture. Paul la gare au bout de l'allée, derrière la maison, en bordure de plage, pour garder un œil sur lui tout en s'installant sur la terrasse. Le soleil la réchauffe agréablement à cette heure de la journée. Ils déchargeront après la sieste du petit, pour éviter de claquer les portières. Entre les herbes qui dansent avec le vent, Paul aperçoit son fils, installé dans un transat au milieu de la plage déserte. Il suggère à Julie de lui apporter le roman qu'elle vient de finir, se disant que cela facilitera peut-être les rapprochements. Elle s'exécute en pensant probablement la même chose.
Jérôme ne l'entend pas arriver.
Il somnole, bercé par le ressac. Julie toussote, craignant de l'effrayer.
« Ah, vous êtes là, je ne vous ai pas entendu venir, » dit-il en se redressant.
« Je vous apporte de la lecture. »
Se hâte d'expliquer Julie comme pour s'excuser tout en lui tendant le livre.
« C'est mon père qui vous envoie ?»«
Difficile de vous faire croire le contraire. »
« Il est bien ?»
demande Jérôme.
« Votre père ?»«
Non, le livre. »«
Oui, très bien. » »«
Et mon père ?»«
Pareil ?»«
Vous attendez quoi de lui ?» poursuit Jérôme.
« Du livre ?»«
Non, de mon père, » dit-il agacé.
« Moi ? Rien ? C'est lui qui est venu me chercher. » C'est à lui qu'il faut demander ce qu'il attend de moi.
Je vous préviens, je ne vais pas vous laisser lui tourner la tête. Ce n'est pas un pigeon à plumer.
Ce serait un bon gros pigeon. Il doit faire dans les 80 kilos au bas mot.
Je ne suis pas allé vérifier, mais son torse n'a pas l'air couvert de plumes.
J'opterais plutôt pour les poils.
Vous avez fini ? S'énerve Jérôme.
Je vous ai fait quelque chose ?
Non.
Alors pourquoi êtes-vous agressif avec moi ?
Parce que je me méfie.
De quoi ?
De vous.
Pourquoi ?
Parce que vous avez le profil de la fille qui sait profiter des situations avantageuses.
Vous devriez vous méfier des profils ? Ça vous enferme dans une vision stéréotypée des gens.
Vous feriez mieux de les regarder en face, dit-elle en tournant les talons.
Ce n'est pas votre face que vous me donnez à voir en repartant ainsi, crie-t-il.
Mais c'est votre derrière, ajoute-t-il ensuite à voix basse en la regardant s'éloigner.
Julie a le privilège de la jeunesse et des formes bien galbées. Jérôme, celui de pouvoir profiter un instant de la regarder se dandiner en enfonçant les pieds dans le sable, et de constater que, décidément, l'homme a cet irrépressible besoin de se focaliser sur cette zone du corps de la femme, comme si son cerveau primitif lui commandait à chaque rencontre de vérifier si la survie de l'espèce peut être assurée avec cette personne-là ou pas. Le primitif tenterait bien l'aventure, celui qui réfléchit, beaucoup moins. Or, Jérôme est d'abord cérébral. Puisqu'il n'a rien d'autre à faire, et qu'elle s'est déplacée exprès pour le lui remettre, il ouvre le livre et en commence la lecture. Quand, en fin d'après-midi, de retour de la plage, Jérôme entre dans la cuisine, l'odeur est délicieuse. Il aperçoit son père, assis par terre dans le salon, en pleine partie de mémoire avec le petit garçon. Celui-ci semble plus habile à se souvenir des paires d'animaux que son rival qui a un demi-siècle de plus que lui.
Jérôme se laisserait presque aller à déclarer que le fumet qui se dégage des casseroles est agréable, mais ce serait faire un compliment à Julie. Il se contente de s'installer dans le fauteuil, à côté de la cheminée, en essayant de se mesurer aux compétences neurologiques de l'enfant sans le montrer. Il éprouve une sorte de sérénité, comme en famille, un dimanche après-midi d'automne. Ça lui file le cafard. Il repense à Irène et à tous ces dimanches qu'il ne vivra plus avec elle. Il se replonge dans sa lecture, préférant être happé par une histoire plutôt que de ressasser la sienne. Julie vient s'installer à côté de son fils. Paul est épuisé par les trois parties qu'il vient de faire, à lutter pour ne pas perdre la face, sans succès. La jeune femme prend sa place contre le petit génie. Jérôme regarde par-dessus son livre, discrètement. Il observe Julie jouer avec son fils. D'aussi loin que remonte sa mémoire, il n'a pas ce genre de souvenir de jeu. Julie est réactive, concentrée, efficace, et Ludovic perd la partie. Au lieu de pleurer comme nombre d'enfants gâtés, l'enfant lui sourit et lui demande une nouvelle partie. Mais sa maman annonce qu'il passe à table. Jérôme en reprend pour la deuxième fois, sans un mot. C'est Paul qui interroge. « Où as-tu appris à faire la cuisine ?»«
Avec ma mère. J'étais fille unique. Elle était très traditionnelle. Elle m'a transmis ce genre de valeurs. J'aime ça, quand je peux le faire. »«
Pourquoi ne le pourrais-tu pas ?»«
Il faut de bons ingrédients pour faire de la bonne cuisine. »
Tu en as suffisamment pour le reste du séjour?
Vous n'allez quand même pas me coller à la cuisine tous les jours, s'insurge Julie. Je suis un peu féministe. Sans carte bancaire, mais féministe quand même. On fait à tour de rôle?
Moi ça me va, convient Paul. Et toi, Jérôme?
Je vous inviterai au McDo quand ce sera mon tour.
Trop facile, répond Julie en le défiant.
Ok, je ferai à manger. Ça vous donnera envie de me prendre mon tour pour la fois d'après.
Paul, vous venez courir avec moi demain matin?
Poursuit Julie.
Moi? Courir? Tu m'as vu? Avec ma bedaine et mes genoux chancelants?
Tant pis, j'irai toute seule. Il n'y a pas trop de rôdeurs dans le coin à 6 heures du matin?
S'enquiert la jeune femme. Jérôme, tu n'as qu'à y aller avec elle, ça te fera du bien. Ça fait longtemps que tu n'as pas couru.
Si c'est pour l'attendre tous les 200 mètres, marmonne Jérôme dédaigneux.
J'aimerais bien voir ça, lance Julie. Demain matin, 6h30, devant la maison. Si je dois vous attendre plus de 2 minutes, je vous colle mes tours de cuisine.
Vendu.
Et si c'est l'inverse, c'est vous qui prenez mes tours de cuisine?
Je ne me fais aucun souci.
Ma maman, elle court vite, précise Lulu.
Ta maman, elle court sûrement moins vite que moi.
Pourquoi?
Demande l'enfant innocemment.
Parce que...
Sûrement parce que je suis une femme, lui répond Julie.
On en reparle demain.
Voilà, c'est ça, conclut Jérôme, se levant pour débarrasser la table, en lui adressant un petit sourire sarcastique.
T'es un beau colis, lance Ludovic au jeune homme.
Un beau colis?
Brocoli, corrige Julie.
Il me traite de brocoli, s'esclave Jérôme.
Je ne ferai pas trop le malin à votre place, poursuit Julie. Pour Lulu, c'est l'injure suprême.
Brocoli? L'injure suprême? S'étonne Jérôme, cynique.
Et pourquoi donc?
Parce qu'il déteste les brocolis.
Quand vous aurez fini de vous chamailler comme des gosses, prévenez-nous, annonce Paul calmement en prenant Ludovic dans les bras.
Viens, toi, on a une revanche à prendre au mémory.
Jérôme, elle a fait à manger, tu fais la vaisselle.
Oui, papa, dit-il en grimaçant.
Moi, je vais prendre une douche, annonce Julie en regardant Jérôme avec le même sourire ironique.
Jérôme est sur le point d'achever la vaisselle quand il reçoit un appel.
Non, Caroline, je ne vous parlerai plus d'embolie pulmonaire.
C'est peut-être là que ça me portera la poisse. Je vous dérange?
Non, je faisais la vaisselle.
Alors, dites-moi merci.
Ça ne m'empêchera pas de la finir quand nous aurons raccroché.
Alors?
Alors, je voulais simplement vous dire que je ne suis pas tombée dans le trou.
C'est bien.
Mais ce n'était pas simple.
Je sais.
Lui avez-vous fait du bien?
Elle m'a fait un grand sourire en me serrant la main, et elle avait moins mal au ventre.
Alors, vous lui avez fait du bien.
Madame Paquin, c'était pour le 2e jour. Demain, vous devriez voir Alfred Maule. Méfiez-vous de lui.
Il ne débarque que lorsque ce sont des remplaçantes, si vous voyez ce que je veux dire.
J'en ai peur.
Oh, vous savez, à son âge, il n'est plus bien vigoureux.
Demain, je ne vous appelle pas.
Ça pourrait bien me manquer.
Mais non.
Non, vous avez raison. Mais vous n'êtes pas en cause.
C'est juste que j'aimerais essayer de vraiment couper.
Je comprends.
Alors on va dire que je ne vous appelle qu'en cas d'embolie pulmonaire fulgurante.
Comment seriez-vous à être drôle, Caroline?
Lulu vient de s'endormir, et je vais essayer d'en faire autant. Je dois être en forme pour demain matin. Il ne manquerait plus que je perde le pari. Il faut que je prouve à Lulu
que ce n'est pas parce que je suis une femme que je suis moins performante qu'un homme. Je veux qu'il comprenne que la femme est l'égale de l'homme. Quand il sera grand, il n'enverra pas Bobonne au fourneau pendant qu'il lit le journal dans le canapé. J'ai trop souvent vu maman s'échiner à la maison sans rien dire. Je sais que Jérôme ne m'attendra pas. Et même si je souffre, je ne le lui montrerai pas. Il serait trop content. On a beau être triste, on n'est pas obligé d'être antipathique. Alors ça lui fera les pieds de perdre la course, la face et de faire à manger à ma place.